tout à l'heure, mais j'enrage de savoir que 90% de l'humanité naît, vit et meurt sans avoir eu la chance de découvrir ce en quoi il est unique, génial, et peut apporter quelque chose aux autres hommes. Il y a des milliards de Mozart, de Picasso, de Victor Hugo, de Henry James qui meurent sans avoir jamais pu s'exprimer. Et c'est une rage extrême. Ça se passe dans nos immeubles, ça se passe à l'autre bout de la planète, et c'est une des choses les plus importantes à changer. Créer les conditions pour que chacun puisse ce que j'appelle devenir soi, c'est-à-dire trouver ce en quoi il est unique.
Oui, vous conseillez de ne rien faire ni professionnellement ni personnellement qui puisse être fait par un autre. Nous ne devons faire que de l'exceptionnel en quelque sorte, Jacques Attali ?
Mais nous sommes exceptionnels. Chacun d'entre nous est exceptionnel puisque c'est nous. Nous sommes uniques. On n'est même pas sûr que le reste du monde n'est pas quelque chose que nous sommes en train de rêver et que nous ne soyons pas la seule personne existant sur la planète. Et nous sommes d'autant plus exceptionnels que le monde commence avec notre naissance et se termine avec notre mort. Donc nous sommes vraiment exceptionnels et il faut en prendre conscience et le vivre comme tel.
Vous écrivez encore, il faut être prêt à se battre jusqu'à la mort même pour que vive dans l'intérêt des générations suivantes une éthique de l'altruisme, de l'empathie et de l'élégance. Que vient faire l'élégance dans ce combat pour se changer le monde ?
L'élégance, la distinction, le raffinement, c'est quelque chose qui est très très important parce que ça crée les conditions de l'humilité, de la douceur, de l'empathie. L'élégance, c'est la façon d'être, ou la politesse, de prendre en compte l'intérêt des autres dans la façon de s'exprimer. C'est d'attacher l'importance à la beauté, au raffinement. C'est le fait de ne pas se présenter en étant vulgaire, mal habillé, de se respecter soi-même et en se respectant soi-même, de montrer qu'on respecte les autres.
Il faut être prêt à se battre jusqu'à la mort pour qu'une éthique de l'altruisme voie le jour ?
Oui, parce que si on n'est pas prêt à se battre jusqu'à la mort, on sera battu. Parce que les autres, ceux qui sont contre, sont prêts à se battre jusqu'à la mort, comme on le voit avec les attentats suicides ou avec l'ensemble des combats qui sont menés sur la planète. Et une des grandes menaces qui pèsent sur l'humanité, c'est que la démocratie elle-même est aujourd'hui si riche, si puissante, que le prix de la vie humaine est tellement important que plus personne ou presque n'est prêt à risquer sa vie pour quelque chose face à des gens qui sont prêts à la risquer pour autre chose. Et ça, c'est un très grand problème. C'est très bien d'être en situation d'avoir à défendre chaque vie comme si elle était unique, comme je le dis moi-même. Mais en même temps, une vie est essentielle, mais elle ne vaut que si elle est utile à l'humanité. Et il faut pouvoir être en situation de risquer sa vie pour ceux qui nous sont proches, et l'humanité doit nous être proche.
La mort, qui est d'ailleurs, selon vous, une clé essentielle pour comprendre nos sociétés, nous devons changer notre rapport à la mort, Jacques Attali ?
Tout est déterminé par notre rapport à la mort, qu'on le veuille ou pas. Soit qu'on l'accepte et ça donne l'univers religieux ou l'univers laïque mais conscient, soit qu'on le refuse et ça donne l'univers de la distraction, du refus de toute nature, du voyage pour ne pas penser. Et nous sommes plutôt dans une société qui a choisi cela avec en réponse des gens qui choisissent l'inverse, et on le voit dans le fanatisme religieux qui pense à l'après et qui même pense que l'après étant tellement mieux que le présent que c'est pas grave de mourir pour l'après. Donc penser à la mort, c'est la clé. Et penser à la mort, c'est penser à ce que nous laissons, à la trace que nous laissons, au souvenir que nous laissons, à ce qu'on peut faire pour qu'après les autres vivent au moins aussi bien que nous, sinon beaucoup mieux, et à créer les conditions d'être d'une humanité qui, dans quelques millénaires, aura atteint un degré de conscience qui lui fera permettre d'apporter à la vie une réponse qu'elle n'a pas encore.
En même temps, aujourd'hui, nous pensons beaucoup, de plus en plus, à l'immortalité, Jacques Attali.
Oui, on pense à l'immortalité dans le présent, c'est-à-dire qu'on pense plus exactement à écarter les murs de notre prison mortelle, puisque nous sommes mortels, donc on pense à écarter la prison, et pour l'écarter, on le fait sous la forme de ce fantasme du clonage, l'immortalité génétique, mais aussi de l'intelligence artificielle, qui est une façon aussi de penser à transférer le savoir, la conscience de soi dans un objet robot. La vision la plus pessimiste qu'on peut avoir sur l'espèce humaine, c'est de lire l'histoire comme une longue traduction de l'humanité du vivant vers l'artefact, tout simplement parce que chaque être vivant est mortel, mais une table, un micro, une tasse sont immortels. Et donc la matière étant immortelle, on a tendance à vouloir transformer la vie en réalité matérielle. Et naturellement, c'est une ruse mortelle, puisque les objets sont morts. Et ils sont immortels que parce qu'ils sont morts.
À propos de la mort, vous expliquez encore qu'il est possible de lutter contre elle en multipliant les projets. Vous écrivez, on n'a toujours que l'âge de ces projets.
On n'a que l'âge de ces projets, puis on peut mener plusieurs... D'abord, on n'a que l'âge, en effet, de ces projets. Et ça a été démontré médicalement que si quelqu'un a beaucoup d'années de projets devant lui, il a plus de chances, mais aucune certitude, parce qu'on peut mourir à chaque seconde, de vivre très longtemps. Et donc on a l'âge de ses projets, puis en même temps on a l'âge de ses projets si on mène plusieurs projets en même temps. Vous avez dit tout à l'heure qu'un de mes principes c'est de ne pas faire quelque chose que quelqu'un d'autre pourrait faire à votre place, mais un autre de mes principes c'est de ne pas se contenter d'une seule vie, parce qu'on n'est pas sûr d'être réincarné. Donc si on mène plusieurs vies à la fois, eh bien le temps prend une épaisseur beaucoup plus grande. Rien ne nous condamne à n'être que ce que la vie nous a fait au départ, ou ce que nous avons fait comme premier choix. Et ceci n'est pas une question de moyens matériels, c'est une question de réalité profonde de la vie sous toutes ses formes, qui nous permet d'avoir dans la vie beaucoup plus de potentialités qu'on peut le croire, tous.
Dans quel monde on vit ?
Jacques Attali, vous précisez qu'il y a aujourd'hui une seule question qui vaille, la voici. Que puis-je faire pour le bonheur du monde ? Combien d'êtres humains cela pose, cette question aujourd'hui ?
De plus en plus de gens se posent cette question. De plus en plus de gens se posent cette question en ayant naturellement l'humilité et la modestie de penser qu'on n'est pas en charge de l'avenir de la planète et qu'on ne peut pas le transformer tout seul. Mais de plus en plus de gens se disent, qu'est-ce que je peux faire pour faire en sorte de laisser une trace, d'avoir un impact, d'être utile. Alors, est-ce que cet impact peut être réduit à son environnement personnel ? On peut penser, c'est légitime, que si déjà on assure le bonheur de sa famille, on a fait quelque chose. Et c'est vrai. Donc, faire quelque chose pour le bonheur du monde, c'est déjà créer les conditions pour commencer que ses enfants, ceux qu'on considère comme tels parce qu'ils vous environnent, aient un meilleur avenir que vous. Donc, tout ce que vous pouvez faire pour vos enfants, c'est déjà faire beaucoup pour le bonheur du monde. Et si chacun était en situation de pouvoir se préoccuper de l'éducation de ses enfants, de les accompagner, de les aider à trouver confiance en eux pour trouver qui ils sont, alors tout irait mieux.
L'attention aux autres, l'altruisme, ça s'apprend, ça doit s'apprendre à l'école ?
Oui, c'est pourquoi j'attache beaucoup d'importance dans ce livre à l'école maternelle, comme étant un lieu essentiel pour apprendre qu'on n'est pas en compétition avec les autres, qu'on ne doit pas forcément se battre avec les copains de classe pour partager ou pour prendre piquer son crayon ou son goûter à l'autre, mais que le partage, c'est une source de bonheur, que aider l'autre, c'est une source de joie. Et que non seulement c'est une source de joie, mais c'est une source de joie intéressée, parce que si l'autre est heureux, ben, il a plus de chances d'être moins agressif avec vous.
Dans votre livre, vous proposez également votre plan pour agir sur le monde. Et votre idée principale, c'est la mise en place d'un état de droit planétaire. Pourquoi est-ce que c'est devenu l'urgence première ?
Parce que le marché est devenu global, mais que l'état de droit est resté national. Et nous, Européens, nous le savons bien, parce que nous voyons bien ce qu'a été le désastre de l'Europe pendant des siècles, quand les nations se battaient. On est en train d'essayer de faire un marché global par le marché et l'Union européenne, mais en même temps on se rend compte que ce marché sans état de droit, ça n'a pas de sens, et donc on construit progressivement, nous aussi, en parallèle, un état de droit européen. Alors ce qui est bon pour l'Europe doit être bon pour la planète, puisqu'il y a aussi, à l'échelle mondiale, un marché global, mais un marché global sans état de droit global, ça conduit au pire, ça conduit à la criminalité, aux inégalités, à la discrédit de la démocratie qui n'est plus capable de prendre des décisions effectives sur son propre territoire, et donc au refus de la globalisation, et donc au protectionnisme, et donc au bout de la route au nationalisme, au populisme et à la guerre. Donc nous avons tous intérêt à un état de droit global. Qu'on me dise pas que c'est pas possible, ça existe dans beaucoup de domaines, dans un domaine essentiel pour l'humanité comme le football, on peut imposer des règles qui s'appliquent au moindre jeu dans le moindre village. Pourquoi ce qui est bon pour le football ne le serait pas pour des sujets moins importants comme la justice sociale, les droits de l'homme, etc.
Et justement, pourquoi est-ce que l'on ne cesse de répéter que c'est impossible, Jacques Attali, selon vous ?
Bon, on répète que c'est impossible parce qu'on n'essaie pas de le faire. Mais si assez d'hommes essayaient de le faire comme assez d'hommes l'ont fait pour le football à la fin du 19e siècle, on devrait y arriver.
Mais justement, quels sont les leaders politiques qui s'emparent de ce programme, qui font de ce projet-là, de ce programme-là, une priorité ?
Il n'existe pas. Il n'existe pas pour l'instant. Et parce que chacun... C'est comme si on jouait au football, pour continuer cette métaphore, où chacun ne serait intéressé que par le jeu dans son propre village, définirait les règles dans son village et se moquerait des règles ailleurs. Donc c'est le volonté de faire de quelque chose un ensemble vraiment compréhensible et partagé par tous qui a créé les conditions de l'unité du football mondial. C'est vrai, beaucoup d'autres domaines, j'ai pris le football, mais d'abord tous les sports sont dans ce cas-là, mais aussi la musique, mais aussi bien des domaines, et aussi des domaines économiques. On l'a bien vu avec l'accord sur le climat qui a commencé. Je pense que le jeu et la peur sont les deux moteurs de l'humanité. Le jeu a créé les conditions de l'unité du sport. La peur peut créer les conditions de l'unité de l'humanité autour du climat et autour de certaines grandes peurs, comme l'intelligence artificielle, lorsqu'elle pourrait menacer nous dépasser, non pas en soi, parce qu'elle peut être très précieuse. Et donc, c'est dans la peur. Si on prend l'exemple de la construction européenne, c'est dans la peur que l'unité européenne s'est faite. La peur d'une nouvelle guerre franco-allemande, la peur d'un retrait américain, la peur d'une invasion soviétique.
Mais aujourd'hui, la peur, elle est là.
La peur, elle est là. C'est pourquoi je pense que cette peur peut créer les conditions d'un sursaut. Si on parle que de l'Europe, je pense que la peur du retrait américain et d'ennemis extérieurs peut créer l'étape nouvelle de l'état de droit européen qui serait une Europe de la défense et de la sécurité.
Est-ce que vous allez tenter de sensibiliser des candidats à la présidentielle française pour qu'ils intègrent vos idées dans leur programme ?
C'est ce que j'ai fait déjà de mille façons. J'ai écrit un programme présidentiel avec un grand groupe de gens, plusieurs dizaines de milliers de Français l'ont partagé et ont participé à ce programme. Je vais bientôt dire aux candidats les 10 mesures qui me paraissent essentielles pour tout programme. Et puis on verra bien. C'est un travail pédagogique qui n'essaye pas, n'a aucune chance de réussir.
Forcément. Jusqu'ici, vous avez été écouté ?
Non. Je vois quand même commencer à surgir, mais il est très tard parce que les élections sont au mois d'avril-mai, je vois quand même commencer à surgir quelques éléments de programme. Quelques formes de programme, quelques formes de conception qui mettent le débat politique un peu plus haut que la simple opposition d'ego.
Parmi vos propositions, il y a notamment celle-ci, la création d'une chambre des générations suivantes.
Mais justement, je vous disais tout à l'heure que l'important c'est d'être altruiste, et en particulier altruiste à l'égard des générations suivantes. Et une des grandes questions, les plus difficiles, ce sera de trouver comment rendre compatible la démocratie avec l'intérêt des générations suivantes, puisque par définition, les générations suivantes ne votent pas, puisqu'elles ne sont pas là. Et donc, il faut créer cela. Les dictatures sont mieux placées pour tenir compte des générations suivantes, même si elles se trompent et qu'elles sont intolérables. Mais après tout, elles prennent des décisions qui ont vocation à durer longtemps. La démocratie préfère, pour l'instant, prendre des décisions en fonction du très court terme. Les sondages d'opinion en sont la forme la plus caricaturale. Donc, une chambre des générations suivantes, c'est une chambre qui créerait les conditions d'une réflexion sur le long terme, qui commence à exister. Il y a quelques villes, dont Paris d'ailleurs, qui a créé une chambre des générations suivantes, qui serait une chambre consultative, qui donnerait un avis uniquement sur un seul critère, c'est quelles sont les conséquences de la décision que vous voulez prendre sur le long terme, sur les générations suivantes. Et dans ce cas-là, on peut avoir progressivement une prise en compte par les décideurs de ce critère comme un élément de la décision.
Et ce sont des jeunes qui siègent ?
Moins de 30 ans, si possible, parce que ce sont eux qui seront les générations suivantes et qui auront à vivre ce que les gens décident d'aujourd'hui.
Et l'idée, c'est que cette chambre des générations suivantes existe à l'échelle internationale, mondiale ?
Bon, pour l'instant, je la vois apparaître par des initiatives que j'ai prises ou d'autres ont prises dans plusieurs villes. Je pense que c'est le bon lieu, parce que la ville est un bon endroit. Donc j'invite Bruxelles à en faire autant et d'autres villes de Belgique à en faire autant.
Voilà, l'appel est lancé. Ma dernière question sera la même que celle posée tout à l'heure à Thierry Pacaud. Quelle est pour vous, Jacques Attali, l'utopie prioritaire pour 2017 ?
Que la démocratie survive.
Merci Jacques Attali d'avoir été avec nous ce matin. Vous publiez vivement après-demain, 15 ans pour sortir de l'impasse. Merci et meilleurs vœux.
Meilleurs vœux, vous aussi. Merci voilà. De cette conversation.
Le premier Dans quel monde on vit de l'année va se clôturer en beauté. Dans quelques secondes, notre carte de vœux inédite et forcément magnifique pour 2017. Et dès 11h sur la première, ne manquez pas votre magazine bientôt à table. Belle matinée.
Dans quel monde on vit ?
Dans quel monde on vit ?
Avec Pascal Claude.
Sur la première.
Beau début de journée et beau début d'année. Que nous réserve 2017 et les années qui suivent ? Le meilleur n'est pas impossible. Jacques Attali est venu nous le dire, à nous maintenant d'agir. Et nous aussi, nous agissons à notre façon. Nous avons fouillé dans les archives de votre magazine et nous avons sélectionné pour vous les voix qui devinent des lendemains qui chantent. Brindis d'utopie, espoir et force d'y croire, nécessité de rêver et possibilité de changer la société. C'est une photo sonore grand format, notre bande-son du début d'année, notre carte de vœux sonore si vous préférez. C'est une réalisation signée Hélène Verrier.
Dans quel monde on vit ?
Bonne année sur la première.
Avec l'intelligence, avec la technologie, on peut faire à la fois des choses très bien et des choses très négatives. Nous devons apprendre justement à tourner notre énergie et notre intelligence vers l'avenir.
Il faut être amoureux de l'espoir éternel parce qu'il y a